Europe 1 Culture Média.
Mais comment fait-on concrètement pour remonter les testicules contre le corps? La solution est un slip chauffant. On passe donc la verge et la peau du scrotum via un trou dans le slip pour bien plaquer les testicules contre l'abdomen.
Celle que vous venez d'entendre avec sa voix mutine, c'est la journaliste Océane Lerouge qui s'est intéressée au slip chauffant comme moyen de contraception masculine. Elle a 30 ans, elle en avait marre de prendre la pilule depuis 15 ans. Elle s'est posé cette question, pourquoi la contraception ne serait-elle qu'une affaire de fille? Bonne question, c'est l'objet de son documentaire qui passe ce soir sur Teva, Contraception masculine, la révolution du caleçon. Nous l'avons vu, nous l'avons invité. Bonjour à toutes et à tous et merci de vous... Ravi de vous retrouver pour Culture Média et merci aussi d'être là avec nous à l'écoute au menu médias et culture au sens large, vous l'avez remarqué. Aujourd'hui par exemple, on va vous parler du plus gros hacking, du plus gros piratage en français correct de l'histoire des jeux vidéo. La victime c'est le jeu GTA, plus de 90 vidéos divulguées sur internet alors que le jeu n'est même pas sorti et le pirate demande 10 000 $ pour ne pas divulguer le code source, ce qui est encore plus surprenant. 10 000 $, c'est quasiment les pièces jaunes pour un jeu qui a généré 7 milliards de recettes dans le monde. Jean Z nous dira tout. Vous retrouverez aussi par ordre alphabétique Louise Bernard pour le journal des médias et les audiences télé d'hier soir, Bruno Donnet pour ses télescopages et Jean-Luc Lemoyne et sa session de rattrapage juste après 10h. Notre infomédia va tourner les pages d'un court pamphlet, mais au vitriol, Netflix, l'aliénation en série. Il est signé du producteur Damien Blondeau. Il sera dans ce studio dans 10 minutes. Enfin, la chanteuse Jeanne Chéral, non pas pour un album, mais parce qu'elle publie un livre, un ouvrage très particulier, très personnel, très érotique aussi, couleur primitive, avec des poèmes signés par elle et des illustrations signées Petite Luxure. Mais qui est-ce? C'est au pluriel. Comme on dit dans ces cas-là, lèvres à le voile. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h. Culture Média, c'est parti.
9h, 11h.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Louise Bernard.
Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous.
Au sommaire de votre journal des médias.
La suite du conflit Canal Plus TF1, l'ARCOM veut tirer les leçons de la situation et plaide pour compléter la loi. L'audience des funérailles d'Elisabeth II en France, les millions du journal Libération et puis un nouveau média d'investigation économique avec un célèbre investisseur du monde économique. Et puis en fin de journal, focus sur le spectacle d'humour de Caroline Vigneault qui diffusait à la télévision.
Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium, Louise.
Ils ont regardé sur France 3 Mémoire Trouble. Ils ont vraiment en large majorité regardé ce téléfilm. 4 820 000 téléspectateurs hier soir, 24,7% de part d'audience. France 3 qui est donc loin devant Massinger, 2 millions de plus, hein, 2 millions de moins donc sur Massinger. TF1, 2 720 000 téléspectateurs hier soir. C'est en baisse, hein, ça continue de baisser, 13,6% de part d'audience. En nombre de téléspectateurs, c'est le plus petit score depuis le début de cette saison. Et puis troisième, une petite déception pour la série La Maison d'en Face, lancée sur M6 hier soir. 1 620 000 téléspectateurs en moyenne sur les deux premiers épisodes, 8,9% de part d'audience.
Europe 1, le journal des médias.
Qui démarre avec la suite du conflit Canal Plus TF1. Le président de l'ARCOM, c'est le nouveau nom du CSA, appelle à changer la loi.
Roch-Olivier Maistre était auditionné hier après-midi devant les députés, devant la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Alors parmi bien d'autres sujets, celui du conflit qui oppose Canal Plus et TF1 est arrivé sur la table avec la question du rôle de l'ARCOM pour aider à résoudre ce différend. Alors pour rappel, Canal Plus a coupé la diffusion des chaînes du groupe TF1 faute d'avoir trouvé un accord commercial pour renouveler leur contrat de diffusion. Canal Plus estime que TF1 demande beaucoup trop d'argent. La coupure, elle, prive totalement l'accès aux chaînes TF1 à certains foyers en zone blanche qui ne reçoivent la télé que via le satellite, via Canal Plus. Donc, une situation que Roch-Olivier Maistre a qualifiée hier de prise d'otage.
Le litige qui oppose TF1 et Canal est un litige purement commercial sur un montant de rémunération. Il n'est pas normal que les téléspectateurs soient pris en otage. Et de ce point de vue-là, je l'évoque devant vous. Le fait de songer à compléter la loi me semble devoir être examiné sérieusement parce que ce type de litige, on les a déjà connus par le passé, on en connaît un aujourd'hui. On peut en connaître d'autres demain puisqu'il y a d'autres négociations qui sont à venir. Et les téléspectateurs n'ont pas à être l'otage d'une négociation purement commerciale.
Roch-Olivier Maistre devant donc la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale. Compléter la loi, ça veut dire réfléchir à des dispositions pour permettre à l'ARCOM d'empêcher la coupure du signal. Réfléchir aussi à, je cite, une obligation de portage des diffuseurs satellitaires. Ce qui, dans ce cas précis, aurait contraint Canal Plus à continuer de diffuser les chaînes du groupe TF1 en zone blanche. Enfin, Roch-Olivier Maistre a rappelé que l'ARCOM continue encore aujourd'hui de jouer un rôle de médiation entre Canal Plus et TF1 et qu'il espère sortir de ce litige rapidement.
Les funérailles d'Elisabeth II, c'était lundi et elles furent très suivies en France.
Oui, hier je n'avais pas encore les chiffres des chaînes d'information, donc j'attendais de les avoir pour vous donner le chiffre global. Alors c'est pas si facile en fait d'en donner un parce que les éditions spéciales des chaînes n'ont pas commencé toutes en même temps et n'ont pas duré le même temps non plus. Celle avec de TF1 par exemple avec Gilles Boulot et Anne-Claire Coudray a commencé à 8h. Julien Bugier, lui, a pris l'antenne à 10h sur France 2. Les chaînes info, elle était en spéciale toute la journée, depuis plusieurs jours même on peut dire.
C'est vrai.
Et M6 a prolongé son journal du midi pour faire suivre la cérémonie. Donc, on va se baser sur les audiences entre midi et 13h. C'est celle, en fait, pendant le cœur de la cérémonie. Eh bien, il y avait 7,5 millions de Français devant leur télé pour suivre l'événement, selon Médiamétrie. Ça veut dire que 66% des Français qui regardaient la télévision regardaient les funérailles.
C'est énorme. Les deux tiers des gens devant la télé étaient devant les funérailles.
Mais alors, à titre de comparaison, pour vous rendre compte, c'est un petit peu plus que les obsèques du prince Philippe, le mari de la reine, en avril 2021. Ça avait été suivi par 7 millions de Français, tout de même. Et c'est quand même moins que celle de Diana, suivie par 10 millions de téléspectateurs en 1997. Bon, c'était une époque où la télé n'avait pas autant de chaînes, donc le choix de programme était moins important. La télé était aussi bien moins puissante. Il n'y avait pas les réseaux sociaux, pas de plateforme, et puis Internet commençait tout juste à être connu du grand public. J'ai regardé, en mai 97, il y avait seulement 270 000 foyers qui avaient une connexion Internet.
Vous avez fait un petit lapsus, à l'époque, en 97, la télé était bien plus puissante qu'aujourd'hui.
J'ai dit moins.
Oui, vous avez dit moins, c'était
bien plus,
mais on a très bien compris ce que vous vouliez dire. Voilà.
Évidemment.
La télé était moins puissante et il n'y avait pas les réseaux sociaux. Était plus puissante car il n'y avait pas les réseaux sociaux. Alors si même moi, même si le rectificatif se trompe lui-même, on n'est pas avancé.
Bon, voilà pour la France. En tout cas, on ne connaît pas encore l'audience mondiale de l'événement. Les projections avancées étaient de 4 milliards de téléspectateurs. Je vous dirai dans les jours à venir si elles avaient vu juste.
On passe du côté de la presse écrite et en France, Libération, le journal Libération, obtient 15 millions d'euros du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky.
Oui, je vous avais fait part des rumeurs qui circulaient autour de l'aide qu'il comptait apporter au journal. Un chiffre avait même été évoqué il y a deux semaines, un prêt de 20 millions d'euros. Ce sera finalement 15. Alors 14 millions prêtés, remboursables dans 4 ans, et 1 million donné au fonds de dotation pour une presse indépendante. 15 millions, c'est exactement la somme que Denis Oliven, lorsqu'il était encore gérant de Libération, avait déclaré recherché, c'était il y a quelques semaines, 15 millions pour faire face aux difficultés financières. Le journal devait être à l'équilibre en 2023, mais ce ne sera finalement pas le cas avant 2026. La faute à la crise du Covid et à la hausse du prix du papier. À noter que Daniel Kretinsky ne devient pas actionnaire du journal. Libération ne peut pas en avoir puisqu'il a été placé dans le fonds de dotation pour une presse indépendante. Ça protège son indépendance éditoriale.
Et puis, hasard de l'actualité, je vous informe que demain, nous recevrons Marie Coleman et Gérard Lefort, anciens journalistes à Libé, pour cette BD Libé, les années folles 80-96. Et puis, hasard de l'actualité, il est également question d'un milliardaire et d'indépendance éditoriale. Un nouveau journal en ligne va voir le jour en France. Il va s'appeler L'Informé, un média consacré à l'économie, avec comme investisseur cette fois Xavier Niel.
Oui, l'annonce vient tout juste d'être faite hier. L'Informé verra le jour fin octobre, avec un objectif pour se distinguer des autres médias économiques, publier des enquêtes et des informations exclusives. Forcément, avec une telle ambition, une question se pose, celle du financement, et donc indirectement forcément de l'indépendance éditoriale. L'Informé a prévu de compter sur ses lecteurs déjà, avec un abonnement à moins de 10 euros, à 9,99 par mois, et des appels aux dons aussi. Et puis il y a donc ce célèbre investisseur Xavier Niel qui finance déjà d'autres médias, on peut citer notamment Le Monde, Nice Matin. Mais est-ce compatible de faire des enquêtes dans le milieu économique et d'avoir comme investisseur un gros acteur du secteur, Xavier Niel? Eh bien, j'ai posé la question au fondateur et directeur de la rédaction de ce nouveau journal, L'Informé, Gilles Tanguy.
On ne s'interdit aucun secteur, aucun dirigeant, donc on parlera de tout et tout le monde, donc y compris de lui, de son entourage, de ses amis, de ses ennemis aussi. J'ai obtenu de lui toutes les garanties d'indépendance possibles. En fait, c'est les mêmes que celles qu'il y a en vigueur au Monde, qui est un peu un modèle en France là-dessus. On aura par exemple une société des journalistes. Vous savez, la société des journalistes, c'est la rédaction en fait. Elle aura 34% des parts de la société, elle aura un droit de veto sur le changement d'actionnaire, un droit de veto aussi sur la nomination d'un nouveau directeur de la rédaction. Il y aura une charte d'éthique, il y aura un comité d'éthique. Bref, en fait, Xavier Niel ne pourra pas intervenir sur la ligne éditoriale du média.
Pardon de cette question, c'est votre bébé qu'on entend à la fin?
Non, c'est celui de Gilles Tanguy donc, qui lance ce média, qui est un ancien directeur numérique du groupe Prisma Média, notamment de Capital, magazine d'économie. Et pour lancer ce nouveau média d'investigation économique, il dit avoir recruté une douzaine de journalistes. Et puis ça va continuer. Il espère pouvoir former une rédaction de 15 à 20 personnes. À noter qu'il n'y aura pas d'objectif sur le nombre de publications par jour ou par semaine. Il m'a dit que l'info primait. Il faut du temps pour sortir des enquêtes. Le site, lui, sera lancé fin octobre.
Et on termine ce journal avec le focus programme du jour, W9, qui diffuse le spectacle de l'humoriste Caroline Vigneault, le titre « Caroline Vigneault croque la pomme ».
C'est son second spectacle après le très réussi « Caroline Vigneault quitte la robe ». Cette humoriste, vous la connaissez peut-être, hein, c'est une ancienne avocate reconvertie. C'est de son ancien métier dont il était question dans son premier One Woman Show. Pour le second, Caroline Vigneault s'attaque cette fois au féminisme, avec des sketchs qui entendent briser des tabous, hein, règles, plaisir, masturbation féminine, entre autres. Et puis surtout, le plus réussi, un long premier sketch de 45 minutes, qui est une sorte d'histoire du féminisme. Elle parvient à revenir avec humour sur plusieurs dates. Ça commence avec Adam et Ève, puis les questions des grandes avancées, droit de vote des femmes, arrivée dans les grandes écoles, divorce, reconnaissance du viol conjugal aussi, par exemple. Toujours de manière très drôle, hein, je vous rassure. Exemple avec cet extrait où Caroline Vigneault parle de code civil.
Moi, mon préféré, c'est l'article 213. L'homme doit protection à la femme. La femme doit obéissance à son mari. Obéissance ? Écrit dans le code civil français, obéissance ? Oui, la France était un état taliban. Ça veut dire que pour être une femme libre, il fallait être veuve. Oui, bois-le ton thé, mon amour.
On reconnaît la patte d'avocate de Caroline Vigneault. Ce long sketch ressemble d'ailleurs à une plaidoirie pour les femmes, avec non pas tant l'objectif de convaincre, mais plutôt de faire rire. Et c'est ce que m'a bien expliqué Caroline Vigneault.
Quand j'ai parlé de ça, je m'en souviens très bien que j'allais faire un sketch sur l'histoire du féministe. Les gens me regardaient avec des yeux ronds en disant « voilà, ça va être chiant ». Et c'est vrai que même dit comme ça, ça a l'air un peu rébarbatif. Mais dès que vous mettez une vanne, et comme c'était vraiment quand je l'ai écrit, je m'étais mis ça comme objectif. Une date, une vanne. Il n'y a pas une seule date où il n'y a pas de vanne. C'était vraiment hyper important pour moi. Parce que par le rire, c'est comme un wagon dans lequel on peut mettre quelque chose et on peut atteindre les gens beaucoup plus facilement. Par le rire, on montre en plus l'absurde d'une situation. Et donc même les gens se disent, c'est vrai que c'est dingue cette histoire. Et en plus, l'avantage avec ce sketch, c'est quand vous cumulez comme ça toutes ces dates les unes après les autres, vous dites, ah mais on revient de loin quand même.
Caroline Vigneault croque la pomme est diffusée demain soir à 21h05 sur W9.
Merci beaucoup Louise Bernard, on retrouve ces infos dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À demain Louise. Pour un nouveau journal des médias.
À
et peut-être les audiences mondiales en milliards.
Ah, j'espère, je les attends.
Des funérailles. Dans un instant, notre info média du jour. Netflix ou l'aliénation en série. Petit manifeste, petit pamphlet signé du producteur Romain Blondeau. Il arrive dans ce studio. À tout de suite.
Europe 1, Culture Média.
Philippe Vandel.
Notre seul concurrent dans cette industrie, c'est le sommeil. C'est pas moi qui dis ça, c'est le patron de Netflix, Reed Hastings. Évidemment, on pense à la version 2022 du temps de cerveau disponible, expression de l'ex-patron de TF1, Patrick Lelay. Netflix, vous connaissez cette plateforme pionnière en matière de séries et de films à la demande par abonnement. Netflix, en 2020, c'est 200 millions de clients et 25 milliards de dollars de profit, quand les cinémas comptent environ 25% de spectateurs en moins qu'avant le Covid. Personne n'aurait pu prédire un tel phénomène, pas même le boss. Le paysage audiovisuel, je ne vous apprends rien, change à vitesse grand V. Et avec lui, nos habitudes de consommation de contenu. Non, on ne dit plus des programmes, on dit des contenus. Mais quels sont les effets de la puissance, voire de la toute-puissance de Netflix sur nos vies? Quelles sont les conséquences du succès de Netflix sur le cinéma? Et en quoi Netflix a changé notre rapport à la création culturelle? Est-ce qu'on peut parler d'aliénation comme le fait Romain Blondeau? On va lui poser la question puisqu'il est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Bonjour Romain Blondeau, vous êtes ancien journaliste, aujourd'hui producteur, vous êtes surtout l'auteur de ce livre « Netflix, l'aliénation en série » qui vient de paraître au seuil dans la collection Libelle. Libelle, c'est presque un pamphlet. Quel a été votre point de départ ?
Le point de départ, c'est un voyage que j'ai fait dans le cadre du travail en Italie, dans lequel je me suis rendu compte, quand on marche dans les grandes villes, Milan, Rome, qu'en fait il faut marcher des kilomètres pour trouver des salles de cinéma. Et ça m'a un peu terrifié quand on sait que l'Italie, c'est une des cinématographies les plus riches, les plus puissantes du XXe siècle, qu'elle a été productrice de d'immenses cinéastes et d'immenses chefs-d'œuvre, et qu'en fait, elle n'a pas su résister au marché. Donc aujourd'hui, c'est un désert culturel, ce pays.
On disait déjà ça de l'Italie avant Netflix.
Bien sûr, oui, non, mais ça n'a fait qu'aggraver une situation.
Alors, au départ, Netflix n'était qu'une société de location et d'achat de DVD envoyée par voie postale. Racontez-nous la création de Netflix, donc par Reed Hastings. Comment tout ça a démarré? Avec quelle idée de départ?
Ça a démarré comme c'est une émanation comme une autre de la Silicon Valley. Je dirais pas que c'est dans un garage, mais en tout cas, c'est une idée à l'origine assez classique. C'est-à-dire c'est un service de location physique qui appartient à cette économie préhistorique de la matérialité. C'était des DVD envoyés par voie postale et ils ont eu un coup de génie qui a été la dématérialisation. Donc ils ont créé un site.
Avant ça, ils ont eu un premier coup de génie, je cite ça de mémoire, c'est que lui, il était accro à un vidéoclub. Il allait emprunter des VHS, il allait les rendre et quand il rendait en retard, il était puni. Et il disait, mais pourquoi on est puni quand on est un bon client? Et il s'est dit, je vais ouvrir un vidéoclub sans limite de quantité. Et comme ça, les bons clients seront récompensés au lieu d'être punis. Et ensuite, c'est ce qui s'est passé. Quand est née la vidéo à la demande, vous achetiez un film, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Si vous commandiez 4 films, bah, il fallait payer 4 fois plus cher que celui qu'on prenait un. Et il n'y avait pas de baisse de prix. Et lui s'est dit, non, on va faire un abonnement. Et comme ça, si la personne en prend 10, elle envoie 10. Si elle en prend un, elle en prend un, mais elle en a payé 10. Voilà l'idée de Jedi de Netflix. Ce qui est très étonnant, c'est que vous mettez en parallèle l'arrivée de Netflix en France avec les débuts d'Emmanuel Macron dans la sphère politique et l'avènement de ce qu'on a appelé la Startup Nation. Quel rapport ?
Concordance des temps, déjà.
Ah,
c'est-à-dire
d'accord.
qu'ils apparaissent à 2 semaines, très exactement, dans le paysage médiatique français.
Ah non, mais c'est pas un rapport philosophique, ça aurait pu être la fraise Tagada.
Et ensuite, concordance des philosophies économiques. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron arrive à Bercy, il incarne sa politique dans un projet de loi qui s'appelle NOE, pour Nouvelles Opportunités Économiques. On sait aujourd'hui ce qu'a été ce projet de loi, il y a eu les Uber Files. Ce projet de loi, il avait pour objectif de faciliter l'entrée de ces nouveaux agents de l'économie numérique dans notre écosystème. Donc il y avait Uber, Deliveroo, mais il y avait aussi Netflix. Et voilà, Emmanuel Macron, il a vu dans ces startups de la Silicon Valley des nouvelles opportunités économiques et il ne s'est pas posé la question des industries existantes, il ne s'est pas posé la question des emplois existants ni des cultures existantes.
C'est à Noël 2017 que la plateforme explose, en tout cas pour nous Français, avec la série La Casa de Papel. Netflix n'avait pas vu venir ce succès. C'était un succès mondial.
C'est un succès mondial, c'est vrai que c'est un peu accidentel. Alors ils doivent avoir un génie au service des acquisitions, mais la série avait déjà été diffusée en Espagne où elle avait reçu des critiques extrêmement mitigées. Et Netflix rachète la série, la reformate pour correspondre à son modèle délinéaire et elle le lance sans campagne marketing particulière et ça va être un succès pop culturel mondial. Je pense que ça va rencontrer quelque chose dans l'époque. C'est-à-dire c'est un film de casse, de revanche sociale, un peu comme ce que sera Squid Game ou Lupin. Donc ça a rencontré quelque chose d'un imaginaire d'époque, mais c'est un succès accidentel.
Lupin, c'est différent. C'était avec Omar Sy qui était une énorme vedette et un gros, gros budget. Peu à peu, Netflix délaisse les auteurs et c'est là où c'est très, très intéressant. J'ai découvert quelque chose grâce à votre livre. Netflix délaisse les auteurs et impose un modèle de création grâce à une bible de 69 pages intitulée, pardon l'accent, Creator Workshop et EMEA, peu importe. Qu'est-il écrit à l'intérieur de cette bible de 69 pages ?
C'est une bible un peu informelle qui existe par continent et qui est destinée, qui a été distribuée notamment en France à des producteurs, à des auteurs indépendants qui voulaient travailler avec la plateforme. Et dans cette bible, on voit des indications pour la caractérisation des personnages,
par exemple,
la gestion de l'intrigue. Par exemple, un spectateur, on sait si un spectateur va regarder, un spectateur décide de regarder une série ou pas dans les 5 premières secondes du premier épisode, où rien n'est plus important qu'un personnage.
Et c'est pas bien ? C'est pas bien de soigner le début ? Proust a mis 20 ans pour choisir « Longtemps, je me suis couché de bonheur ». Donc Proust aurait le droit et Netflix n'aurait pas le droit de bien choisir son intro.
Bien sûr que c'est bien de choisir le début. Et d'ailleurs, Serge Danet disait à peu près la même chose.
C'est-à-dire
qu'il décide si un film est un bon film ou pas dès son premier plan. Donc bien sûr que c'est bien. Mais si vous voulez, vous voyez bien aussi... Enfin, je comprends votre question.
Non, je veux savoir ce qui vous gêne là-dedans.
Vous voyez bien. Ce qui me gêne là-dedans, c'est que ça ne produit que du formatage. C'est-à-dire qu'en fait... évidemment que c'est bien de soigner son début, mais d'en avoir des normes, d'en faire une norme, d'en faire un code applicable à toutes les séries, à toutes les langues, à toutes les expressions, ça produit du formatage.
Ouais. Quoi d'autre comme formatage ? Parce que le fait que ce soit pas chiant, on est tous d'accord avec ça, on signe tous pour ça. Mais quoi d'autre ? Qu'est-ce qui vous gêne dans le formatage ? Il y a d'autres exemples que le début.
Définition de chiant, déjà. Définition de chiant, définition de notre rapport à la durée, définition de notre rapport à ce qu'est un propos dans une série. Moi, je n'ai pas besoin, quand je regarde une série, qu'elle ait un enjeu visible toutes les 5 secondes. Je n'ai pas besoin qu'elle procède comme ça par information illustrée. Moi, parfois, je peux aimer dans une série, dans un film, qu'on prenne son temps, qu'on ne monte pas tout en cut. Enfin, voilà, il y a des formatages formels, narratifs,
Romain Blondeau, vous êtes producteur, il ne faut jamais insulter l'avenir. Après ce livre, comment ça va se passer si un jour vous voulez produire et aller voir Netflix ?
J'insulte pas l'avenir, moi je fais plutôt un éloge du présent, c'est-à-dire que quand je fais ce texte, je le fais pas contre Netflix, je le fais plutôt comme une adresse à la fois aux spectateurs de ma génération et à la fois au pouvoir public.
Merci d'avoir été avec nous, Romain Blondeau. Je rappelle, Netflix, l'aliénation en série, est-ce que ça veut dire du cinéma? Parce qu'évidemment, on n'a pas pu tout évoquer dans cet entretien. Merci d'avoir été avec nous en merci. Direct dans Culture Média. Nous, on se retrouve dans un instant avec la journaliste et reporter Océane Lerouge, qui réalise un documentaire sur un sujet assez rare. C'est intitulé « Contraception masculine, la révolution du caleçon ». On en parle dans un instant sur Europe 1.
9h, 11h.
Europe 1 Culture Média.
Philippe Vandel.
Bonjour Océane Lerouge.
Bonjour.
Bienvenue dans Culture Média, vous êtes journaliste, reporter pour la télévision, vous aviez déjà réalisé des docs, notamment auprès des jeunes et des ados et de leurs problèmes. Aujourd'hui, vous signez un documentaire très personnel, le titre « Contraception masculine, la révolution du caleçon ». C'est à voir ce soir à 23h20 sur Teva et puis aussi en replay sur Sisplay parce que c'est un horaire tardif. Documentaire très personnel parce qu'il commence par une question intime que vous vous posez depuis une quinzaine d'années au sujet de votre contraception à vous.
Exactement, le fil rouge un peu, en tout cas le début de ce documentaire, c'est ma quête personnelle où je me suis retrouvée sans option vraiment de contraception à un moment donné de ma vie, puisque première pilule, je fais une thrombose, la deuxième, elle est retirée du marché parce qu'on se rend compte au bout de plusieurs années qu'elle augmente les risques de cancer du cerveau, j'essaye le stérilet, ça marche pas. Et vraiment, mon dernier rendez-vous avec ma gynéco, elle me dit « Bon, bah voilà, votre dernière solution, c'est une pilule qui est en phase de test, mais qui risque d'impacter votre pilosité. » Et là, je pense que j'ai une vision de moi pendant 2 secondes avec une moustache ou un monosourcil et je me dis « Non, là, c'est bon, j'arrête les frais. J'arrête de jouer avec mon corps parce que je pense que j'ai assez donné en termes de contraception. » Mais le fait est que je suis au pied du mur et du coup, je me pose la question « Qu'est-ce qui existe de l'autre côté, donc du côté des garçons ?»
Je ne l'ai pas dit, vous avez 30 ans, donc c'est la moitié de votre vie, 15
ouais,
ans.
Ça fait quand même pas mal de galères.
La moitié de vos vies, c'est quand même énorme. Donc, la contraception masculine, parce que ça peut exister. D'abord, juste un mot, vous n'êtes pas la seule dans ce cas. Les femmes et les jeunes femmes prennent de moins en moins la pilule.
Oui. C'est vraiment une tendance, alors les derniers chiffres officiels datent un petit peu, mais voilà, c'est vraiment une tendance, il y a un désamour notamment de ma génération, plutôt des trentenaires on va dire, des jeunes femmes pour la pilule parce que méfiance envers les hormones, méfiance parce que voilà, c'est quelque chose qui a des effets secondaires, qui n'est pas forcément naturel, et effectivement la prise de pilule est en chute libre.
Alors vous avez décidé d'aller voir les hommes, qui avez-vous rencontré, parce qu'il y a plusieurs méthodes de contraception masculine, d'une phrase vous les résumer et après on va faire cas par cas.
Très bien. Alors effectivement, dans les trois grosses méthodes, dans les hommes que je rencontre, donc il y a le premier qui a choisi la vasectomie, qui est la méthode définitive la plus connue. Il y en a un autre qui est célibataire, c'est un profil que je trouvais assez intéressant, et qui choisit la méthode hormonale. Et il y a un couple que je suis vraiment de A à Z, qui choisit la méthode, donc l'homme choisit la méthode de contraception thermique.
Alors je vais faire dans l'ordre chronologique du doc. Vous avez commencé par la vasectomie, on y est. C'est un couple, il s'appelle Guillaume, elle s'appelle Delphia, ils ont 37 ans tous les deux. Un mot sur cette pratique. D'abord, vous les avez trouvés comment? C'était des amis d'amis ou ils militaient au sein d'une association? Comment vous êtes tombée sur eux deux?
Alors je suis tombée notamment sur Guillaume puisque en fait lui il commençait un projet de BD pour parler de son parcours contraceptif. Donc c'était en fouillant je pense sur Instagram, j'ai vu passer quelques planches, je me suis dit c'est quelqu'un qui a énormément d'autodérision, qui parle d'un sujet qui fait peur avec de l'humour. Donc je me suis dit en fait c'est l'avantage.
La vasectomie, d'un mot vous avez dit que c'était définitif, mais moi j'ai bien vu votre doc et il paraît que c'est pas totalement définitif. On peut quand même avoir subi l'opération et avoir encore des enfants.
Alors, il y a déjà de toute façon des backups, c'est-à-dire que bah, il y a la congélation du sperme. Il y a aussi le fait qu'on produit toujours des spermatozoïdes, même après la vasectomie. Donc, on peut toujours faire une biopsie testiculaire, donc voilà, les récupérer directement à la source pour éventuellement faire des inséminations artificielles. Et alors là, c'est un gros débat. En France, tous les urologues me disent, ils font signer un papier en disant que c'est définitif. Après, dans d'autres pays, je pense aux États-Unis, enfin voilà, c'est là où ils n'ont plus l'habitude de pratiquer l'opération, c'est réversible.
Alors, ce n'est pas simple en France. Guillaume a dû passer par 3 urologues différents avant de pouvoir faire pratiquer la vasectomie. On comprend que ce n'est pas encore passé dans les mœurs. Et bizarrement, c'est dans le privé que ça se passe. On l'écoute.
C'était plus dans un secteur privé, sauf que secteur privé, ça coûte une blinde. Ne serait-ce que 400... la consultation, je me souviens encore le jour où Guillaume il est rentré à la maison, il me dit 80 balles pour me faire tâter les baloches, quoi. Enfin, il était fou, quoi.
Alors ensuite, j'ai trouvé à presque une heure de chez nous une urologue dans un hôpital qui fait pas de dépassement d'honoraires, qui m'a pris en charge et ça s'est super bien passé.
Super, l'urologue au top de top.
Et en fait, ouais, des fois, je me demande, chez certains mecs qui veulent faire ça, si déjà le processus pour réussir à l'avoir, déjà, rien que ça, ça doit être rédhibitoire, quoi. Au bout d'un moment, il y en a peut-être qui se disent, ouais, fais chier, je laisse tomber, quoi.
Voilà, et ça va totalement contre la doxa, parce qu'on imagine que c'est le système public qui fonctionne bien. Pas du tout. Vous donnez ce chiffre au Québec, un tiers des hommes de moins de 50 ans ont déjà adopté la vasectomie.
Oui.
Et ça m'a assez frappé. Personnellement, je ne connais qu'un homme qui a pratiqué la chose, il est venu le raconter à ce micro. C'est l'écrivain Alexandre Jardin. Il le raconte dans son dernier livre aussi. Il vient de vivre une nouvelle histoire d'amour avec sa nouvelle fiancée. Ils ont décidé que jamais ils n'auront d'enfants. Et vous savez quoi ? Elle est québécoise. Voilà. Comme quoi, tout s'explique. Il y a la méthode thermique. C'est comment la méthode thermique ? C'est la méthode sur laquelle vous mettez le plus gros coup de projecteur, si j'ose dire. Océane Lerouge est avec nous. Culture Média continue sur Europe 1.
9h-11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel.
Toujours en compagnie de la réalisatrice Océane Lerouge, on parle de son enquête sur la contraception masculine, ce sera ce soir sur Téva, mais d'abord, c'est l'heure des télescopages de Bruno Donnet. Bonjour Bruno.
Bonjour Philippe.
Tous les jours Bruno, vous analysez ici les mécaniques médiatiques et hier, vous avez été totalement stupéfait par la communication de crise de la France Insoumise.
Oui, la France Insoumise empêtrée dans l'affaire Quatennens qui a réalisé hier un sans faute magistral au jeu des 7 erreurs de la communication de crise. Je vous raconte. Tout a commencé à la mi-journée. Le groupe parlementaire des Insoumis avait décidé de prendre la parole depuis l'Assemblée nationale et de retransmettre l'événement en direct sur Internet. L'allocution devait être suivie d'une conférence de presse. Seulement voilà, une fois la déclaration de la présidente du groupe, Mathilde Panot, terminée, il s'est passé ceci.
Avez-vous des questions sur les différents points que nous avons évoqués ?
La retransmission a été coupée et le live stoppé net. Écran noir et donc première erreur. Le hic, c'est que ce que le parti de Jean-Luc Mélenchon souhaitait cacher, en l'occurrence son profond embarras, eh bien un journaliste de l'émission Quotidien l'a filmé. Il a commencé par poser une question.
J'aimerais une réaction au tweet de Jean-Luc Mélenchon concernant l'affaire Adrien Quatennens. C'est qu'en interne, certains n'ont pas apprécié qu'il salue le courage d'Adrien Quatennens.
Et voici ce que Mathilde Panot lui a répondu.
Nous avons un communiqué de presse qui a été fait par la coordination des espaces de la France Insoumise dans lequel nous nous retrouvons toutes et tous.
Elle lui a offert, deuxième erreur, un refus d'obstacle et une splendide séquence de langue de bois. Le journaliste a donc précisé qu'il n'était pas dupe.
C'est pas ma question, c'est sur le tweet de Jean-Luc Mélenchon, le fondateur.
C'est ma réponse.
Et la troisième erreur, il s'est entendu répondre avec une formule popularisée par Georges Marchais il y a plus de 40 ans. C'est peut-être pas votre question, mais c'est ma réponse. Ensuite, l'infortuné journaliste a tenté sa chance en essayant de questionner Clémentine Autain.
Madame Autain, qui, je pense, c'est un sujet qui vous intéresse. Que pensez-vous du tweet de Jean-Luc Mélenchon ?
Manque de bol, Madame Autain n'a pas voulu lui répondre et elle a refilé la patate chaude à sa collègue Danielle Obono qui, quatrième erreur, a montré publiquement un embarras, comment dire, abyssal.
Je pense que ce sur quoi nous voulons insister, c'est le fait que c'est...
Toutefois, n'écoutant que sa détermination, notre opiniâtre confrère a tout de même essayé de relancer. Et c'est là que la cinquième erreur est apparue.
Est-ce que vous en avez parlé à Jean-Luc Mélenchon, Madame Autain ? Madame Autain, vous en avez parlé ou pas, Jean-Luc Mélenchon ?
Prétextant une réunion urgente, les Insoumis ont carrément pris la fuite et ils ont planté là la presse et ses questions embarrassantes. Tollé sur les réseaux sociaux, alors, ils ont dépêché Daniel Obono et Clémentine Autain sur le plateau des chaînes info. Problème, et sixième erreur, Madame Autain a voulu prendre la rédaction de BFM TV en défaut.
On n'est pas des machines, donc imaginez si ça vous arrive là dans la rédaction.
Oubliant un peu vite que BFM TV avait précisément connu l'affaire Jean-Jacques Bourdin il y a tout juste un an et qu'elle l'avait viré.
Ça nous est arrivé. Un de vos collègues, ça vous est arrivé.
Une décision a été prise.
Enfin, septième erreur, hier la France Insoumise n'a envoyé que des femmes sur les plateaux de télévision. Les hommes étaient aux abonnés absents. Aucun d'entre eux n'a eu le courage d'intervenir médiatiquement. Pourtant, il y a très peu de temps, lorsque l'affaire Damien Abad avait éclaté, les hommes de la France Insoumise avaient été en première ligne. Monsieur Alexis Corbière avait par exemple demandé sa démission le 25 mai.
Je pense qu'on ne peut dans l'État que dire à M. Damien Abad qu'il ne peut pas faire partie du gouvernement.
M. Éric Coquerel, lui-même accusé d'abus et de harcèlement et toujours président de la commission des finances de l'Assemblée nationale, avait fait la même chose le 3 juillet.
Le citoyen Abad est devenu ministre. Et vous comprendrez bien que quand vous portez plainte, une justiciable n'est pas sur le même niveau qu'un ministre.
Et cerise sur le gâteau, M. Adrien Quatennens, celui qui a donc collé une trempe à sa femme, avait réclamé le 15 juillet dernier que les violences faites aux femmes soient enfin regardées droit dans les yeux.
Maintenant, il faut aussi lutter contre les violences sexistes, sexuelles et y lutter drastiquement en s'organisant pour ça.
Voilà, carton plein pour la France insoumise et 24 heures seulement. Après les funérailles de la reine d'Angleterre, nous avons donc assisté hier à l'enterrement en grande pompe de la crédibilité du premier parti de gauche de notre pays en matière de prise en compte des violences faites aux femmes.
Merci beaucoup Bruno Donnet. L'enchaînement n'est pas facile, mais nous y sommes. On parle de contraception masculine avec le sous-titre de ce doc qui passe ce soir, signé par vous, Océane Lerouge, La révolution du caleçon. Pourquoi ? Parce qu'il y a une autre méthode de contraception pour les hommes. C'est la méthode thermique. D'un mot, expliquez le principe.
Alors, la méthode thermique, ça consiste à remonter avec différents dispositifs, donc soit un sous-vêtement, soit un anneau, dont je parle dans le documentaire, à remonter les testicules contre le corps, en fait, donc d'utiliser non pas une source de chaleur externe, mais d'utiliser bien une source de chaleur interne pour réchauffer les testicules. Et en fait, quand elles sont à température du corps, les testicules, la spermatogenèse, la production de spermatozoïdes s'arrête.
Alors, il y a des caleçons particuliers, d'où ce titre, La révolution du caleçon. Vous allez rencontrer un jeune couple qui a décidé de s'y mettre. Il s'appelle Florian et Emeline. Ils ont besoin d'un slip chauffant et c'est là où c'est complètement surréaliste ce reportage parce qu'on va de surprise, de découverte en découverte. Où est-ce qu'on pourrait trouver un slip chauffant, on va se dire, chez le marchand ? Pas du tout. Il faut le fabriquer soi-même. Et une fois par mois, dans un bar de Lille, il y a, je vous cite, un atelier de couture militant.
Exactement. Donc, dans ces ateliers couture, on voit donc des groupes d'hommes qui apprennent à utiliser une machine à coudre, qui prennent fil et aiguille en main pour se confectionner leurs propres sous-vêtements.
Pourquoi c'est pas en vente ? Pourquoi ils l'achètent pas dans une boutique ou sur Internet ? Parce que c'est interdit ou est-ce que c'est militant jusqu'au bout du bout ?
C'est juste qu'il n'y a pas assez de demande pour qu'il y ait une commercialisation pour le moment. Et puis il y a le côté aussi sur mesure, vu que voilà, ça, il faut que ça soit adapté à la taille de chacun.
Alors il y a une dizaine d'hommes autour de la table le soir où vous filmez. Ils ont une trentaine d'années. Chacun raconte son expérience. Et là, on dirait un groupe de parole, un peu comme les alcooliques anonymes, sauf que là, il s'agit de raconter aux autres son désir de slip chauffant.
Ici, on confectionne l'équivalent du slip chauffant dans une version épurée avec des lanières élastiques. Ça s'appelle le jockstrap.
Bon ben bonsoir à tous. Tout atelier donc numéro
3628.
Voilà, maintenant on les compte plus. Bienvenue.
Bonsoir.
Bonsoir monsieur.
Moi c'est Denis. Alors là normalement vous dites bonsoir Denis.
Bonsoir Denis.
Bonsoir Denis.
Formidable. Je suis pas en couple, mais qui sait ce qui pourrait se passer dans 3 mois, donc c'est pas.
Moi, du coup, c'est ma 3e séance et je compte bien terminer mon jockstrap. Un rouge et l'or.
J'en porte un aussi depuis janvier. Peut-être partir sur le 3e modèle ce soir. On va voir, léopard. Et du coup,
j'espère avoir un léopard aussi.
J'ai appris un nouveau verbe, se contracepter, ça va même plus loin parce que on les voit qui manient le fil, l'aiguille, la machine à coudre et de votre propre aveu, vous trouvez ça amusant.
De l'extérieur, oui, on a l'impression que c'est un peu surréaliste et surtout de voir l'investissement parce qu'il y en a qui y reviennent pour la troisième fois.
Ce que je trouve amusant, c'est de voir des garçons manier la machine à coudre, dites-le.
C'est vrai, c'est amusant.
Il y a une petite revanche sur l'histoire et on ne peut pas vous donner tort. Il y a des ateliers comme ça à Quimper, à Paris, à Toulouse, à Nantes, vous l'avez raconté. Et vous avez aussi découvert une autre innovation thermique simple et prometteuse. C'est un anneau en silicone. Il s'appelle l'AndroSwitch. Il a été inventé il y a 5 ans par un ancien infirmier du côté de Bordeaux. Il s'appelle Maxime Labrie. L'anneau a été vendu à plus de 10 000 hommes dans 50 pays. Mais... En France, la vente de l'anneau a été suspendue l'an passé, en 2021, par l'Agence nationale de sûreté du médicament, la ANSM. Pour quelle raison ?
En fait, tout dispositif médical doit passer des tests cliniques. Et là, en fait, c'était en l'occurrence le fondateur de, enfin le créateur de cet anneau n'avait pas forcément les moyens logistiques, enfin les moyens financiers de faire ces tests cliniques. Donc, quand il a été commercialisé, il ne passait pas effectivement toutes les étapes pour commercialiser un dispositif médical.
Alors, il essaie désormais de passer les étapes. Son créateur, Maxime Labrie, vous l'avez rencontré et il a ses arguments. Écoutez,
cet ensemble de dossiers représente à peu près 4 années de travail et un gros million d'euros. Et ce n'est pas possible à l'échelon d'un petit porteur de projet. Ça l'est pour un lobby pharmaceutique qui est totalement désintéressé pour que ce genre d'objet puisse accéder au marché. Parce que les lobbies pharmaceutiques n'ont aucun intérêt à développer ces méthodes qui ne sont pas intéressantes d'un point de vue de marché. Et pour des raisons aussi purement socioculturelles, parce qu'en général, les décideurs dans ces sociétés, c'est des personnes d'une cinquantaine à soixantaine d'années, hommes blancs, cis, hétéros, et qui n'ont aucun intérêt d'un point de vue de la violence patriarcale à changer la donne. Donc c'est pour ça qu'ils ne le développent tout simplement pas.
Alors lui, il est plus féministe que les féministes. Rien que le vocabulaire homme blanc, cis, hétéro. Déjà, ça veut dire quoi, cis ? C'est CIS, hein, c'est pas le chiffre 6.
Non, c'est CIS. Cis, c'est dans le sens, c'est quelqu'un qui est en accord avec son genre assigné à la naissance.
C'est-à-dire que c'est un homme hétéro qui assume le fait d'être un homme.
Qui assume le fait d'être un homme, exactement.
D'être un homme, pas même hétéro. Qui assume le fait d'être un homme.
Exactement.
Le produit vous plaît, vous dites, j'aimerais bien voir bientôt cette solution naturelle et économique dans les rayons des pharmacies. Et alors, vous êtes allé, là aussi, ça devient complètement lunaire, dans une sorte de laboratoire clandestin, dans un sous-sol parisien, avec des jeunes hommes qui se confectionnent des anneaux artisanaux.
Exactement.
C'est légal ou c'est pas légal ? Pourquoi c'est un sous-sol ?
C'est juste la configuration des locaux. C'est légal, c'est-à-dire que de toute façon, ils ont tout à fait le droit de créer leurs propres anneaux. Et là, effectivement, on les voit jouer avec un peu du silicone, se faire leur petite tambouille, leur petite recette. Et oui, cette séquence est effectivement assez amusante.
Pour reprendre notre expression, la résistance s'organise, dites-vous. Le mot résistance est très connoté, il a un sens. Résister contre quoi ?
Là, je le disais spécifiquement en réaction à la décision de la NSM. Puisque effectivement, la Haute Autorité de Santé a mis à l'arrêt cette solution qui était vraiment statistiquement la méthode la plus prisée de contraception masculine.
Pardon de faire un point Godwin, mais quand on résistait, c'était contre les nazis. La NSM, elle n'est pas fondée, leur décision ?
Si, si, leur décision
est
fondée.
Vous pensez qu'on peut sortir des produits médicaux sur le marché comme on a envie ?
Non, non, bien sûr que non. Non, non, même le créateur l'admet. C'est même lui, ça va dans son sens, en fait, finalement, qu'il y ait un meilleur encadrement de cette méthode. Après, là, ce que je trouvais amusant, c'est qu'il y avait tellement d'hommes qui se disaient mais en fait, on veut cette solution, peu importe si c'est artisanal, peu importe si on doit, entre guillemets, faire un peu cobaye, ils sont prêts à faire leurs propres anneaux et à tester les dispositifs sur eux.
Alors, ce qui vous plaît aussi dans ce sujet, c'est les couleurs. Je vous cite, du rose, du doré, des paillettes. Ce que je trouve génial, c'est vous qui le dites, hein, c'est que ces mecs, c'est vous qui le dites aussi, s'autorisent à assumer les couleurs qui bousculent les codes de la masculinité. Je ne vous le reproche pas, mais là vous êtes davantage que journaliste, vous êtes militante.
Oui, je pense que c'était assumé effectivement de dire ça à partir du moment où je c'est personnel, on va dire, ce documentaire a quand même un aspect très personnel. Et ce que je trouvais drôle dans le slip ou les anneaux, c'est qu'effectivement je pense que c'est des hommes qui sont tellement à l'aise, qui ont tellement déconstruit les mythes de la virilité qu'en fait ils assument complètement voilà, les couleurs genrées. Voilà, juste avant, il y en avait un qui faisait un slip léopard avec des paillettes. Bon, bah voilà, c'est assumé.
Là encore, petit point vocabulaire, c'est quoi des couleurs genrées ? Ouais. C'est le bleu pour les filles, les roses pour les garçons.
En gros, voilà.
Étrange conclusion de l'urologue Marc Galliano qui sert de référent tout au long de votre reportage. Il dit, pour changer les choses, il faut éduquer les garçons. Pourquoi pas les filles ? Pourquoi seulement les garçons et pas les enfants, pas les jeunes ? Pourquoi les garçons ?
Alors ça, cet aspect-là, je le trouvais assez intéressant dans le sens où il me disait ça parce que finalement, les filles... parce qu'elles doivent passer un moment de leur vie par un gynécologue, etc., ont la connaissance de leur propre corps. Elles ont cette médicalisation de leur sexe, ce qui n'est pas du tout le cas des garçons. Et l'urologue disait, mais il y a des garçons, en fait, le sexe masculin, à part quand c'est évoqué pour de la performance sexuelle, c'est pas du tout évoqué pour la contraception, pour une meilleure connaissance de leur corps, etc. Et voilà, lui, c'était là-dessus qu'il insistait.
On a oublié de dire un moyen de contraception avec lequel souvent les ados démarrent, qui cette fois-ci concerne surtout les garçons, enfin les filles aussi, c'est le préservatif. Et vous ne l'oubliez pas, dans ce reportage, on n'en a pas parlé, mais il y est présent. Merci beaucoup, Océane Le Rouge. Vous voyez le nombre d'aspects intéressants dans ce reportage, intéressant et neuf. Contraception masculine, la révolution du caleçon. C'est ce soir à 23h20 sur Téva et ça peut se regarder ensuite quand on veut en replay sur Sisplay. Merci d'avoir été avec nous dans ce studio. J'ai oublié de vous demander quel était votre moyen à vous de contraception. Ça sera l'objet d'une prochaine interview. Culture Média continue sur Europe après les infos de 10h. Jeanne Chéral, la chanteuse, non pas pour un album mais parce qu'elle publie un livre, un ouvrage très particulier, personnel et érotique. C'est le hasard de l'actualité, ça s'appelle Couleurs Primitives. Et puis dans les indispensables, Stéphanie Loire nous parle de la réédition d'un album légendaire de Pink Floyd et Jean Z nous raconte l'histoire du plus gros piratage de jeux vidéo de l'histoire, ça concerne GTA. Jean-Luc Lemoine pour sa session de rattrapage, à tout de suite sur Europe 1.